Relire, l'émission littéraire de Radio Galaxie. Bonjour et bienvenue, c'est Relire et aujourd'hui Georges Patrick Glaize, l'enseignant, l'auteur ariégeois, nous revient. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous présenter votre tout dernier roman. Il vient de paraître pour ce premier trimestre 2013. Il est paru aux éditions Calmann Lévy. Vous avez fait faux bond à votre ancien éditeur ?
Non, j'ai changé d'éditeur, c'est tout, voilà.
Voilà. La fille de la fabrique. C'est quelle collection, ça ?
Alors, c'est la collection France toujours et d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est une collection qui est dédiée aux romans de terroir avec des auteurs prestigieux comme Jean Anglade, par exemple, Antonin Malroux, Gérard Georges, Élise Fischer et bien d'autres.
Mm-hmm. Marie-Bernadette Dupuis, me semble-t-il,
exact,
aussi.
Exact, oui, aussi Marie-Bernadette Dupuis, qui écrit sur la région Midi-Pyrénées.
Oui, et qui écrit très, très bien.
Tout à fait.
J'aime bien aussi son style d'écriture et de livre. Est-ce que pour écrire, vous vous servez d'un calendrier pour ne pas vous tromper dans la chronologie de vos écrits ?
Maintenant, je vais commencer à en avoir besoin d'un, je crois, parce que c'est le 11e roman, en effet. Et vous savez, on finit des fois un peu par les... Non pas les confondre, mais ils s'empilent les uns sur les autres au rythme de l'un par an. Et c'est vrai que des fois, il m'arrive d'intervertir les dates, années de parution de l'un sur l'autre.
Oh oui. Vous êtes enseignant. Comment réagissent vos grands élèves, puisque vous avez des grands élèves?
Oui, mes élèves sont des élèves de terminale, oui. Donc qui ont entre 17 et 18 ans. Mm-hmm. Alors comment ils réagissent? Eh bien, je vous dirais qu'ils réagissent bien, ils sont intéressés, ils viennent souvent me faire dédicacer à la récréation, un livre pour leur mère, pour leur grand-mère. Bon, oui. Certains sont de mes lecteurs déjà.
Oui, et que vous disent-ils justement à propos de vos livres?
Ça les intéresse, et puis c'est vrai que bon, c'est pas tout à fait courant d'avoir peut-être un prof qui est écrivain. Bon, donc oui. ça donne quelque chose d'un peu différent, une connotation un peu autre.
Oui, et ça change la vie justement de devenir l'auteur.
Ça change, oui, ça change le regard des élèves sur le prof, sûrement. Oui. Ça change aussi le regard du prof sur les élèves, c'est réciproque. Et c'est un enrichissement, je pense.
Oui. On n'en doute pas, surtout que vous écrivez de très beaux livres, il faut quand même le dire. Comment vous faites pour arriver à qualifier vos images, pour les mettre en valeur comme vous le faites? Est-ce que pour ça, vous travaillez les qualificatifs? Comment vous faites pour y arriver comme ça?
Alors, je travaille d'abord avec des images qui sont vraies, c'est-à-dire à partir des fois de cartes postales anciennes, bon, de logiciels de reconstitution d'images, de cartes état-major, d'images en 3D. Et à partir de là, bon, moi je décris ce que je vois et puis j'y mets un petit peu de l'art du romancier, hein, mm-hmm. Disons qu'il pour donner envie au lecteur d'approcher ce lieu, de s'y rentrer, de s'y sentir bien, mm-hmm. et de d'y faire quelques pas avec moi. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu des fois difficile parce que bon, il faut parfois travailler un effet adjectif qualificatif.
Et oui.
Il faut chercher à éviter les répétitions, bien sûr. Hein. Et il faut toujours garder une espèce de regard poétique que l'on a sur le paysage.
Oui, et vous le faites très bien. Donc ce livre, il s'appelle La fille de la fabrique. Il vient de paraître, comme je le disais, aux éditions Calmann Lévy. Ce sujet est une intrigue. Est-ce que vous aimez les livres policiers ?
J'aime bien lire un polar, oui, en effet, de temps en temps, pas systématiquement.
Oui.
Alors là, il s'agit d'un polar, en effet, historique et rural,
oui.
Disons, qui, avec une double intrigue, puisque l'intrigue est à la fois sur la naissance de la fille,
oui.
et sur la mort du père,
mm-hmm.
et cette double intrigue ne trouve sa résolution vraiment qu'à l'extrême fin du roman, d'un polar
oui.
digne de ce nom.
Franchement, c'est vrai. Et c'est vrai que presque on a envie d'aller voir les pages d'après pour pouvoir avoir une idée de ce qui va arriver. Ce livre se déroule à Martres-Tolosane. On va essayer de garder le plus secret possible cette intrigue d'ailleurs. C'est une des capitales, la capitale par excellence de la faïence ici à Midi-Pyrénées, j'ai envie de dire. Un de vos livres avait déjà reçu le prix de la plume martraise de la bibliothèque municipale
oui,
de Martres. Est-ce que c'est cette rencontre justement qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre maintenant?
Alors en effet, quand j'ai reçu le prix de la plume Martraise en 2008 ou 2009,
oui,
pour un roman qui était, je crois, Le Sentier des Pasteliers,
oui, tout à fait.
J'avais promis au lecteur de Martre qu'un jour je ferais un roman sur Martre Tolosane, et j'ai donc tenu parole.
Oui.
Bon, au-delà de cette promesse, il y a le fait que le Martre est un objet artistique majeur dans la région, que l'on trouve dans beaucoup de familles et qui fait partie de l'environnement des maisons, et c'est un objet plein de noblesse, mais aussi de qui a beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de d'art de vivre, et donc je trouvais intéressant de faire un roman autour de ce produit entre guillemets, de manière à le mettre un peu à l'honneur, à une époque où on a tendance un peu à oublier, disons, ces arts de la terre et du feu. Donc c'est aussi eh bien un petit coup de chapeau à tous ces artisans de Martre Tolosane qui, avec beaucoup d'amour, ont pétri la terre et ont fait ces chefs-d'œuvre, mm-hmm, que nous avons dans nos maisons.
Oui. Et donc ce livre se déroule donc tout près de chez nous. Comment est-ce que vous avez fait pour reconstituer des lieux disparus, comme le café, la fabrique peut-être elle-même qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, bien qu'il en existe pas mal encore à Martre, parce que quand on pousse cette porte, que ce soit du bureau ou de la fabrique, on sent la terre mouillée, on sent la terre pétrie, on sent le cendrier plein de mégots, de cigarettes, on sent cette odeur de tabac.
Oui, alors bon, j'ai d'abord fait deux visites à Martre Tolosane, la deuxième étant d'ailleurs assez incognito, en prenant des photos, de manière à pouvoir moi-même imbiber de tout ça.
Mm-hmm.
J'ai ensuite consulté beaucoup de documentation, bien sûr, hein, et à partir de ça, j'ai reconstitué donc ce temps-là, en me servant aussi de choses que j'avais vues ailleurs que dans le monde des faïenciers, hein. Certains détails, bon, je connais un peu le monde de la porcelaine à Limoges, j'ai pompé littéralement certains détails dans le monde des porcelaines, et je l'ai adapté à celui,
oui,
de la faïence. Hein.
Oui.
Ce sont deux mondes qui sont assez parallèles, en fin de compte,
oui, tout à fait,
avec pas mal de ressemblances. Donc, je m'en suis servi, et puis j'ai regardé, j'ai observé, bon, j'ai essayé de m'imbiber de l'atmosphère des lieux, de faire en sorte que cette faïencerie, eh bien, elle soit un syncrétisme de celles qui ont existé.
Mm-hmm.
Alors aujourd'hui, il en reste 9, et donc c'est un peu un hommage à tous ces artisans que ce roman est dédié.
Oui, d'ailleurs à un moment vous avez fait le parallèle avec l'Italie aussi, où il y a des faïences.
Oui, il y a des faïences en effet en Italie, j'ai fait le parallèle là, puisque
oui,
le père, l'artiste, se rend en Italie pour,
voilà,
trouver des sources d'inspiration et renouveler un peu en quelque sorte sa créativité.
Mm-hmm. Vous avez rencontré donc finalement des faïenciers qui vous expliquent un petit peu comment ça marche ou pas?
Oui, mais je les ai rencontrés de manière touristique, je veux dire, sans me dévoiler du tout. Hein.
Oui.
J'étais là comme un touriste quelconque, le badaud qui regarde, mais c'est tout, je n'ai jamais dit...
Et qui pose des questions.
Qui pose des questions, mais je n'ai jamais dit ce que j'allais faire, bien sûr.
Est-ce que vous êtes toujours à l'affût pendant vos courses, pendant vos rendez-vous ou... Parce que à la page 295, je cite, l'œil rond de surprise évoquant celui des dorades sur l'étal du poissonnier, ou encore un petit peu plus loin, la porte qui couine à en perdre haleine. Est-ce que vous êtes toujours à l'affût de ces belles images? Est-ce que automatiquement les bruits que vous entendez ou les choses que vous voyez?
Oui, les bruits font partie du roman, ils font partie de l'ambiance, ils sont ceux qui donnent la contexture, hein, qui donnent son côté de vérité. Et ce sont ces petits détails que l'on remarque et qui font, en fin de compte, les images que nous percevons. Pour moi, ces petits détails, ils authentifient donc le roman, l'image, et ils font que le lecteur, eh bien, cette image, elle est présente devant lui et devant ses yeux, il est dans l'image. Donc l'art du détail,
oui,
est pour moi l'art de la description. Hein.
Oui.
Un peu comme comme certains peintres, bon, qui dessinent des objets très très petits, très petites feuilles, bon, et qui partent de là, bon, reconstituent une image avec une précision chirurgicale.
Mm-hmm. Et donc toutes ces images, vous les notez à mesure que vous les entendez ou que vous les voyez?
Alors, j'en note des fois, c'est vrai, j'en note, j'en photographie parfois. J'ai aussi une bonne mémoire et je parviens à les mettre en musique, disons, en scène,
mm-hmm,
pour en faire des scènes de vie.
Oui. La couverture de ce livre, elle a vraiment changé par rapport à jusque ce de maintenant. Est-ce que c'est une photo d'époque parce qu'elle y ressemble vraiment beaucoup? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce peut-être une de vos photos? Parce que je connais aussi Georges Patrick Glaise, photographe.
Alors, ce n'est pas une de mes photos. On vient d'effet la passion de la photographie, on pourra en parler si vous voulez. La couverture, disons que je n'y suis pour rien, hein, au sens propre. Oui. Elle a fait l'objet d'une longue discussion avec les mon éditrice chez Calman Lévy. On avait beaucoup hésité sur savoir ce que l'on mettait, si on mettait couverture colorée représentant du martre ou si on met autre chose. Et puis finalement, on est tombé d'accord sur celle-ci qui est à la fois assez personnalisée, qui a ce côté un peu ancien, et puis sur lequel on voit ces deux femmes qui sont les deux héroïnes, mm-hmm, dans un café qui pourrait être tout à fait celui du roman dans les années 60. Deux femmes qui sont dans une position très naturelle, bon, et qui discutent un, oui, peu comme sont en réalité mes deux femmes.
Oh oui.
Donc c'est un choix qui est le fruit d'une maturation, mais je ne suis pour rien dans la confection de la photo.
Oui.
Ce sont les graphistes de talent de chez Calman Lévy qui,
oui,
qui en ont toute la paternité.
Donc vous dites que vous parlez de femmes, on va y venir justement à vos héroïnes. Est-ce que vous avez travaillé sur la soumission de la femme? Est-ce que c'est important pour vous de la dénoncer ou de l'affirmer?
Alors pour moi, oui, c'est très important. C'est important de montrer comment la femme était autrefois, quel chemin elle a fait et aussi quel chemin il lui reste à faire. Je me place en position d'historien. Pendant des millénaires, les femmes ont été des êtres secondaires. Et disons secondaires, mais même sans cervelle, des mésanges. C'est comme ça qu'on les concernait. Vous savez, il y a encore assez peu de temps, la femme devait demander autorisation à son mari pour ouvrir un compte en banque. C'était assez révélateur de l'autonomie qu'elle pouvait avoir.
Oui.
Quant au port du pantalon, il a été autorisé il y a à peine quelques mois seulement. Jusqu'à il y a quelques mois, le port du pantalon était justiciable d'après la loi d'une punition. C'est assez ridicule d'ailleurs, mais c'était un peu folklorique. Donc c'était tout dire de la position de la femme au cours des siècles.
Mm-hmm.
Et les années 60, c'est le moment où ça commence à bouger sérieusement. Donc ça m'intéressait, moi, de positionner mes deux héroïnes dans ces années-là pour montrer comment ces deux femmes prennent en fin de compte leur destin en main et comment elles s'assument, l'une comme chef d'entreprise, l'autre comme salami, pour montrer que ces choses bougent en fin de compte.
Oui.
Et donc c'est aussi un livre qui se veut être un hommage à toutes les femmes qui ont fait avancer un peu la cause des femmes.
Oui.
Sans grande manifestation peut-être, mais qui l'ont fait avancer par leur travail, oui, par leur opiniâtreté.
Vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous pensez justement de ça?
C'est une question piège, ça. Non, je veux dire que moi, je me suis jamais posé la question dans mon couple. Ma femme est mon égale à 100%, je veux dire. On a jamais posé de
oui,
questions.
D'une manière générale, parce que je ne voulais pas juste poser pour votre couple. Ça, c'est votre vie privée, ça.
Je fais partie d'une famille où les femmes ont été assez tôt libérée.
Oui.
Si je prends le cas de ma mère, qui est comédienne, mm-hmm, et qui a connu une existence professionnelle très,
oui,
très dépendante de son mari, ma grand-mère aussi,
oui,
assez tôt, voilà, une époque où c'était pas évident. Donc, par tradition familiale, c'est vrai que les femmes de chez moi ont été plutôt libérées
oui,
que les autres dans leur vie.
Oui. Donc là, c'est une dénonciation que vous faites.
Donc là, c'est une dénonciation.
D'accord.
Oui, c'est une dénonciation. C'est vrai que la condition de certaines femmes dans les années 60 était encore fort déplaisante.
Oui.
Voilà.
Je vous remercie au nom de toutes les femmes et de la femme que je suis.
Merci.
Gaston, est-ce qu'il était un planqué de la guerre ou est-ce qu'il a usé des relations? Parce que là, j'ai pas trop bien saisi, en fait.
Il est un peu les deux, hein. Il est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il a utilisé un peu les relations qu'il avait pour faire marcher cette fabrique dont il était le seul à pouvoir faire fonctionner. Donc, il s'est en effet, planqué, on pourrait dire, mais pour la bonne cause, c'est parce que c'était indispensable au fait que cette fabrique fonctionne. Ils ont été nombreux, d'ailleurs, comme ça, des gens qui ont été qui ont fait quelques semaines au front en 1914 et puis qui ont été renvoyés dans leur foyer parce qu'ils étaient indispensables au fonctionnement de leur usine.
Oui.
Donc on les a renvoyés chez eux, on les a fait remplacer par d'autres qui étaient moins indispensables.
Oui.
Donc il est à la fois un peu le planqué, mais il a aussi utilisé,
oui,
ses relations. C'est un peu ambivalent, hein,
oui,
je suis d'accord. Oui.
Et il n'aurait pas pu, mais comme on vient de l'expliquer, à cause justement de la situation féminine, il n'aurait pas pu mettre sa femme au courant et la mettre aussi.
C'était pas dans le travail. C'était pas pour lui dans l'histoire du temps.
Oui.
À l'époque, lui, c'est quelqu'un qui est naturellement autoritaire, une société très masculinisée, et donc qui pense que la place de la femme, c'est au fourneau, c'est de faire des enfants, s'occuper de son ménage, mais sûrement pas de diriger l'entreprise. Et donc, et pas de porter la culotte, comme on disait.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il a fait un mariage d'amour ou un mariage arrangé? Parce que là, vous parlez du mariage, mais à la limite, parlez mariage, point.
Oui, c'est à la fois, c'est pas un mariage arrangé, mais c'est pas un mariage d'amour non plus, hein. C'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux, hein. Disons qu'on lui a trouvé cette fille qui est d'une famille de commerçants assez honorable, bon, petit commerçant, qui est acceptable. Ce qu'il attend de lui, principalement, c'est les enfants, c'est ça. Et malheureusement, ces enfants ne viennent pas, du moins de suite.
Oui, tout à fait. Alors, on va essayer de garder le maximum de suspense pour le laisser découvrir à nos auditeurs. Est-ce que Gaston a aimé Monique, sa fille, ou est-ce qu'il lui a fait payer quelque chose dont on ne comprend pas encore le sens?
Disons que il voit dans cet enfant le témoignage de peut-être ce qu'il n'a pas pu être complètement, un père à 100%.
Oui.
Et donc il a à la fois un sentiment d'amour, c'est vrai, pour elle, mais aussi un sentiment de rejet. Et c'est ce côté très ambivalent qui fait qu'il est dur avec sa fille et qu'il la traite rudement, n'hésitant pas à utiliser du martinet, à l'enfermer de manière assez brutale. Mais en même temps, il ne la déteste pas.
C'est pour ça que c'est très ambigu.
Il est un peu ambivalent et c'est en ce sens-là qu'il est très humain d'ailleurs aussi.
Oui.
Parce qu'il assume les contradictions de tout un chacun. C'est pas du tout blanc ou du tout noir. C'est souvent quelque chose qui est variable, qui est en facette, en fin de compte. Donc il est humain, c'est un artiste, c'est un écorché vif. Il supporte mal que son autorité soit pas prise en compte. Et donc sa fille, qui est un peu une rebelle, qui a tendance à être une rebelle, eh bien, il entend la morigéner comme il faut. Mais c'est autant pour la remettre dans le droit chemin que pour la sanctionner. Et c'est un peu une relation étrange, très complexe, disons,
c'est
entre
vrai.
Son père et sa fille.
C'est vrai. On va faire une petite pause musicale avant de continuer ce livre. Vous êtes sur Radio Galaxie, Georges Patrick Glaise est avec nous. Il nous dévoile son tout dernier roman, La fille de la fabrique, paru chez Kahneman Lévy. Nous parlions du père. Est-ce que à ce stade-là, on peut dire que le mariage de Gaston est raté et que ça l'a aigri?
Oui, sûrement. Sûrement, c'est un mariage raté. Disons que bon, entre sa femme et lui, c'est pas de l'amour. Passion, c'est une cohabitation plus. Et sa femme, elle doit faire son travail. Oui. Lui, il est dans son domaine. Bon, mais c'est pas un mariage d'amour au sens où qui s'est enraciné.
Oui.
Bon, la passion ou l'amour qu'il a pu avoir, c'est vite érodé au cours du temps. Mm-hmm. Et puis, ils ne sont pas sur le même monde en fin de compte. Hein.
Tout à fait.
Donc, il n'y a pas beaucoup de dialogue, de discussion entre ces deux êtres. Et elle en souffre parce que elle a aussi du sens artistique, mais d'une autre manière que lui. Et donc, ce sont deux évolutions qui sont parallèles, mais qui ne se recoupent pas. Ils n'ont pas beaucoup de tombes crochues l'un par rapport à l'autre, en fin de compte, au quotidien. Et lui, dans un rapport très masculin de domination de chef de famille, qui assure ça, d'avoir raison et qui ne voit plus l'autre presque. Il finit par ne plus la voir, par certains côtés.
Oh oui. Monique, donc, est partie. Et elle va revenir à Martre, et c'est là l'objet de cette intrigue. Avant de rentrer, elle faisait un travail culturel. Est-ce qu'elle était prédestinée à faire la vie qu'elle a menée avant de revenir à Martre, et finalement continuer cette vie à Martre ?
Vous savez, je crois que la vie de Monique, elle est faite de croisements, de carrefours.
Bon, oui.
Et donc, t'es sûrement pas prédestinée à mener la vie culturellement libre et rebelle qu'elle a eue. Peut-être se serait-elle intéressée à la faïence si son père l'avait été autrement. Elle avait du plaisir à aller sur les genoux du vieil ouvrier à apprendre à manier la terre quand elle était petite fille. Bon, sa vie, les relations difficiles avec son père ont fait qu'elle a claqué la porte à un moment. Et qu'elle a décidé d'assumer pleinement son destin pendant plus d'une vingtaine d'années.
Oui.
Et puis à nouveau, le destin s'est manifesté. Et là, elle revient vers cette faïencerie. Et elle est face à un défi, parce que le défi, quand elle arrive, elle n'a pas l'intention formelle de reprendre cette faïencerie.
Tout à fait.
Elle n'en a pas forcément le désir. Elle vient, bon, pour voir un peu. Et c'est l'attitude du contremaître qui, depuis la mort du père, a tendance à se prendre pour le vrai patron, qui va la motiver, parce qu'elle reçoit cette attitude comme un véritable défi. Et elle n'aime pas les défis qu'on peut lui lancer. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour, reprendre les rênes, parce que elle est un peu la fille de son père à ce niveau-là.
C'est justement là, finalement, là, elle ressemble à son père.
Elle ressemble à son père, parfaitement.
Tout à fait.
Parfaitement. Et c'est peut-être l'éducation qui revient là. Hein. C'est le jeu du hasard et de la nécessité.
Oui. Hein.
Et l'éducation qu'elle a reçue, très rigide, rigoriste, revient et va lui donner la force morale de s'affirmer par rapport à son contremaître qui est un drôle de personnage, qui est à la fois roublard, calculateur, faux jeton.
Tout à fait.
Bon, qui est en même temps un homme qui est amoureux de son travail, car lui aussi, il n'est pas tout blanc ou tout noir.
Oui.
Il a aussi des côtés, je ne dirais pas sympathiques, mais que l'on peut comprendre, des côtés humains. Cette fabrique, c'est toute sa vie. Et pour sa vie, pour cette fabrique, il est prêt à aller jusqu'au bout.
Ah oui. D'ailleurs, on le verra peut-être qu'il va y arriver au bout. On verra ça plus tard. Alors, on est en 1964. Marcel est-il à l'image de son patron Gaston, le père de Monique ? Il n'aime pas les femmes. Ce sont des pintades, il le dit dans le livre.
Oui, tout à fait.
Donc, comment vous avez créé ce personnage ?
C'est un vieux garçon, en fin de compte, aigri dans sa relation avec les femmes, qui a reporté toute son affectivité sur son métier. Et donc, pour lui, les femmes sont ou des ouvrières qui doivent travailler, et c'est tout. Il ne cherche pas à considérer les femmes autrement.
Oui.
Bon, il a eu une vie sentimentale assez plate et triquée, et physiquement ses contacts se sont limités à quelques péripatéticiennes, en fin de compte, mais ça il n'a pas grande considération pour la gente féminine. Lui, ce qui compte, c'est son travail, c'est la faïence et tout ça.
Avait-il des vues justement sur cette faïence? Est-ce qu'il espérait la faire devenir sienne?
Alors, il y a d'abord un conflit entre Gaston et son contremaître, parce que Gaston, lui, qui est un artiste, il a envie de faire évoluer cette faïencerie au niveau de la créativité, du décor, alors que le contremaître, lui, est beaucoup plus traditionnaliste. Et il est beaucoup plus répétitif, en fin de compte, dans ce qu'il fait. Et donc, le conflit entre les deux fait que quand Gaston disparaît dans un tragique accident, on l'appellera comme ça, il se trouve seul désormais aux commandes, puisque Monique n'est pas là. Et pendant 4 ans, il va être le patron de fait de cette entreprise, qu'il va pouvoir diriger enfin comme il l'entend, au point de s'en sentir parfaitement propriétaire.
Oui.
Et sa légitimité, elle se fonde sur le travail qu'il a fourni.
Oui. Parce qu'on a mis du temps à retrouver Monique. Il y a eu des recherches qui ont été faites.
Alors, il y a des recherches qui ont été faites, mais bon, c'est pas évident de la retrouver. Oui. Le temps que les démarches fassent, 4 ans se sont écoulés. Et donc, en 1964, eh bien, en octobre 1964, Monique revient. Et là, lui, il prend très très mal ce retour parce que il voit de suite une adversaire qui est multiple. Adversaire parce qu'elle est femme. Adversaire parce qu'elle est une maréchale et adversaire parce que en tant que telle elle va lui reprendre ce qui était lui ce qu'il considérait comme son bien.
Oui.
Donc elle est vraiment la femme, je dirais, à abattre.
Oui. Et il n'en est pas loin.
Il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour s'en débarrasser de cette femme qu'il considère au début comme une pintade, mais ensuite il va très vite comprendre que c'est autre chose quand même.
Oui.
Et que il va falloir beaucoup d'efforts pour essayer de l'éliminer.
Oui. Alors où je trouve que vous êtes un artiste aussi, c'est que Monique ne revient pas seule, elle revient avec son amie Rachel. Et vous n'en parlez quasiment jamais. Enfin, vous faites parler Rachel, elle est présente, mais on se pose presque tout le long du livre, mais qui est Rachel? Et où je vous trouve vraiment très fort, c'est que vous nous avez fait attendre la page 259 pour nous dire qui est Rachel et pour nous la présenter. Alors qu'on la pense comblée, qu'on la pense insouciante, parce que c'est vrai que jusqu'à là, elle est toujours très, très envolée. Elle est très attentive aussi, par contre, par rapport à Monique. Pourquoi on se demande donc, à des moments, qui elle est? Et pourquoi vous n'en parlez pas avant?
C'est une blessée de la vie, Rachel.
Oui.
Et elle a la pudeur de ne pas en parler. Bon, on peut révéler son parcours sommairement.
Hein. Tout à fait.
C'est une femme qui est d'origine juive, qui a connu la déportation. Et elle est donc très heurtée dans sa mémoire. Et donc meurtrie. Elle choisit le silence, ce qui est d'ailleurs très typique de certaines de l'époque. Vous savez, la mémoire à ce niveau-là, elle a évolué, elle n'est pas toujours la même. Pendant longtemps, on a voulu oublier simplement, faire en sorte que ce qui n'existait pas avant que cette mémoire puisse vraiment s'exprimer naturellement. Donc Rachel, elle a la volonté de repartir à zéro. Bon, et comme Monique d'ailleurs, est aussi une blessée de la vie sur d'autres aspects.
Oui.
Alors, le personnage de Rachel est intéressant parce que elle est également une artiste. Elle fait des dessins pour les costumes de théâtre et elle va bientôt mettre son art de graphiste au service de la production de Marthe.
Tout à fait. Et alors, est-ce que c'est justement ce passé qui lui revient à la mémoire et que vous nous exposez alors quand justement...
C'est ce passé, oui. Le roman est basé sur le fameux ce passé qui ne passe pas, comme disait Henri Rousseau. Hein, ce passé que l'on trimballe à la semelle de ses souliers et qu'on n'arrive pas à oublier, même si on l'enfouit parfois profondément. Un passé qui vous colle à la peau comme une tunique de Nessus et qui est toujours derrière plan, derrière vous, et qui conditionne les actes que vous pouvez faire.
Oui, et c'est le geste de Marcel, justement, qui fait remonter tout ça à la surface.
Et c'est en effet tout ça qui se produit quand ça remonte à la surface, comme des bulles de champagne, un peu. Mm-hmm. Tout ce passé qui revient et qui explose littéralement. Et ces deux femmes sont liées par une amitié sincère, mais aussi par le désir de revanche que l'une et l'autre ont de reprendre sur la vie.
Mm-hmm. Ah, il y a beaucoup de mystères dans ce livre, par contre. Vous avez mis beaucoup, beaucoup... Cette histoire autour de ce carnet noir qu'on n'arrive pas à retrouver, ça c'est terrible quand même. Parce que à chaque fois, à chaque page, on dit ça y est, ils vont le trouver. Et on le trouve vraiment très tard.
On le trouve très tard, oui, oui. Alors l'histoire du carnet noir, bon, je me suis inspiré d'un fait réel qui s'est produit dans ma famille, où un portefeuille avait été perdu dans des circonstances étranges. Et on l'avait cherché pendant des mois et des années. Et puis finalement, on l'a trouvé par hasard, fortuitement, je vous dis pas où.
Oui.
Parce que j'ai décalqué un peu la situation.
Oui.
Et là, ça a été une surprise étonnante parce que bon, on pensait pas du tout qu'il aurait pu passer là.
Oui, d'accord. Le dénouement est un peu houleux. Il est triste aussi à la fin. Toute sévérité. Est-ce que Monique a eu du mal à les supporter?
C'est pas facile pour elle à supporter. Dans les deux derniers chapitres, disons, elle fait beaucoup de progrès dans la connaissance à la fois la mort de son père, et aussi dans ce qui est le secret de sa naissance, parce que l'un est lié forcément à l'autre.
Oui.
Et les confidences de Japelune, qui est l'un, oui, l'un des héros haut en couleur, un paysan en couleur du roman, vont l'amener sur un chemin auquel elle n'a absolument pas pensé. Et là, je retrouve une histoire authentique, en effet, que l'on m'a raconté, d'une personne qui s'est trouvée dans la même situation.
D'accord.
Je ne peux pas en dire plus, sinon on va divulguer
le
roman.
Est-ce que les personnages que vous avez mis, c'est-à-dire le petit café-restaurant, le petit magasin, l'instituteur a envoyé aussi parce que, voilà, lui aussi, il a été victime quelque part de la vie. Est-ce que tous ces personnages aident Monique, justement, petit à petit, à faire comme un pointillé, à faire un chemin
Alors, tous ces personnages, ils sont authentiques, ils ont réellement existé. Pas forcément
tous
ensemble,
oui,
à Martre, etc.
Oui.
Bon, ça, ils ont été... c'est de l'assemblage,
oui,
je dirais.
Oui.
Mais c'est vrai qu'ils sont comme des petits cailloux que l'on met sur le chemin. Et Monique va aller de caillou en caillou. Il va reconstituer ainsi toute la trame de son histoire, tout ce passé qu'on lui avait caché et qui va paraître un peu comme un camailleux. Hein.
Oui.
Au fur et à mesure, la vérité se fait petit à petit et pour Monique, elle est surprenante.
C'est vrai.
Parce que c'est pas du tout ce qu'elle pouvait penser. Et d'un seul coup, le personnage de son père va s'éclairer de manière fulgurante, notamment dans les dernières pages, dans l'épilogue.
Oui.
Où
oui,
là, bon, elle est face à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée.
Mmh. Est-ce que la maison existe vraiment ?
Alors, les taillades existent en effet, oui. Ils ne sont pas dans la région de Martre-Tolosane,
oui,
non. C'est une maison que j'ai vue au nord de Toulouse, exactement,
oui,
que j'ai transportée bon, pour les besoins du roman.
Oui.
Par contre, j'ai été voir si depuis les lieux que je décrivais à Martre, on voyait bien le village de Martre tel quel. Donc j'ai repositionné ma maison, mais en faisant en sorte que la vue qu'on pouvait avoir,
oui,
soit réelle.
Mm-hmm.
Donc j'espère que les lecteurs prendront peut-être une boussole pour aller chercher la maison et la voir.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, tous ces personnages, toute cette vie d'avant, comment vous avez fait pour la reconstituer ? Vous vous êtes servi de ce que vous avez connu vous-même
J'appartiens à la génération des années 60.
Oui.
Bon, d'abord, donc, j'ai connu un peu tout ça. Bon, les petits commerces, je les ai vus en Ariège, je les ai vus dans les rues de Toulouse. Bon, donc, je me suis servi de tout mon passé. Je me suis servi aussi, donc, c'est vrai, de cartes postales, de livres de photos, de livres souvenirs. Et pour reconstituer donc, cette vie villageoise qui, vous savez, n'a en fin de compte bougé que tardivement. Hein. Jusqu'aux années 75 à peu près, il y avait encore dans nos villages ce genre de petits commerces. 1975, ça peut paraître lointain pour certains auditeurs.
Oui, mais peut-être. C'est vrai que c'était pas si
mais
loin que
pour
ça.
Moi, c'était presque hier. Bon, et
oui.
Bon, l'historien que je suis, vous savez, l'historien est toujours un peu hors d'âge,
oui, hein,
de ce niveau-là. Et donc, pour l'historien que je suis, eh bien, c'est quelque chose de très proche. Et je suis à la fois là comme historien et comme journaliste presque. C'est,
oui,
c'est un peu les deux. Bon, donc, on est dans cette configuration où je décris des choses que j'ai vues et je pense que pour le lecteur, c'est d'autant plus facile à imaginer ainsi.
Oui. Enfin, vous avez toujours fait dans vos livres plusieurs voyages. Enfin, vos héroïnes,
oui,
souvent c'est des héroïnes,
oui,
font des voyages. Et là, ce dernier voyage, dans la fin de votre livre, les dernières pages, est-ce qu'il était important pour Monique de faire ce voyage en Alsace ?
Oui,
est-ce que
c'était
pour y retrouver des racines ? Est-ce que c'était pour y retrouver une culture ? Qu'est-ce que c'est qui vous...
C'était important. Alors, bon, moi, j'ai fait personnellement le voyage d'Alsace, tout comme j'ai fait le voyage en Italie, que fait également Gaston. Mais c'était important parce que pour elle, c'était renouer avec son passé. Il fallait absolument qu'elle fasse ce voyage, qu'elle aille voir. Elle ne pouvait pas rester dans le doute. C'était pour elle impossible. Donc, ce voyage, c'était le moyen de tirer toute son histoire au clair et de pouvoir assumer tout ce que lui avait caché. Et j'ai fait le même itinéraire qu'elle pour aller voir les lieux,
oui,
avant de les décrire.
Oui.
C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs un peu d'authenticité dans le roman.
Oui. C'est vrai que vous avez cette facilité d'écrire et de qualifier à tel point que voilà, on est comme elle devant la porte, on est comme elle à la maison des taillades, on est comme elle à la fabrique, on passe entre les dames qui peignent les motifs. C'est vraiment fabuleux ce que vous faites.
Merci.
Ben voilà, Georges Patrick. On ne veut pas dévoiler vraiment l'énigme de ce livre, mais on arrive déjà à la fin de notre émission. On ne va pas dévoiler donc cet épilogue. La fille de la fabrique, c'est paru chez Calman Levy. Nos auditeurs le découvriront cet été. En tout cas, c'est une lecture qu'on leur recommande, que ce soit cet été ou de suite. Voilà. Mais on peut le lire cet été. Ça sera un très très bon livre pour rester sous le parasol. Est-ce que vous avez eu du mal à laisser Monique et Rachel?
Oui, on a toujours un peu de mal, vous savez, à laisser ces personnages. Mais bon, quand leur histoire est terminée, que l'histoire est bien ronde, en fin de compte, eh bien, on est retombé un peu sur ses pattes. Et donc, ça va. Et puis, il y a le roman suivant, que l'on commence également juste après avoir mis le dernier point final.
Oui.
Et là, on se laisse porter à nouveau par d'autres personnages.
Oui. C'est pas difficile de sauter comme ça d'un roman à un autre? Il n'y a pas encore des bribes de l'ancien qui reviennent pour le nouveau?
Non, vous savez, c'est un peu comme quand on change de chaîne. On appuie sur le bouton. Bon, ça, c'est peut-être un tempérament très masculin. Bon,
ouais.
C'est vrai, où nous, les hommes, on est très, très sérieux, très tiroir, en fin de compte, mentalement. Donc, j'ai basculé de l'un sur l'autre, bon, avec, en l'espace, une dizaine de jours, à peu près.
Mm-hmm.
Déjà porté par l'histoire, bon, une histoire que j'avais déjà commencé à mijoter, alors que je n'avais même pas fini encore la fille de la fabrique.
Ah oui. Vous allez nous amener où?
Alors le prochain se passera tout près de chez vous, puisqu'il se passera dans la région de Montesquieu-Volvestre.
Ah.
Voilà. Et à Domazan-sur-Ariège.
D'accord.
Et donc c'est un roman qui aura pour thème les traces laissées par la guerre de 14, traces morales principalement.
Mm-hmm.
Un homme qui, disons, se trouve être amené à une vie qu'il n'avait pas du tout prévu de mener, et puis qui va connaître des bouleversements très importants au fil des années.
D'accord.
J'en dis pas plus.
D'accord.
Mais il sortira pour le printemps 2014, normalement, et je ne sais pas encore le titre.
Bien.
Mais vous savez, je pense déjà au suivant.
Déjà aussi?
Oui, le prochain.
Et celui-là?
Pour 2015.
Et ça sera
une histoire?
Ah, on ne
sait pas encore. Mais ça sera sûrement sur un produit de la région.
Bien. En tout cas, on vous remercie parce qu'en même temps d'écrire les livres, vous mettez comme là, à Martre, vous les mettez à l'honneur.
Oui, ben j'ai cherché à mettre Martre à l'honneur. Je trouve que les productions de Martre de Lausanne sont, moi, elles m'inspirent beaucoup de passion, et donc rendre un peu ce que ces artisans donnent. Je trouve que c'était la moindre des choses, et surtout en ces temps où, disons, la conjoncture économique n'est pas toujours facile, faire connaître le Martre de Lausanne au reste de la France, c'était un peu peut-être aussi le but du roman.
Mm-hmm. Eh bien, on vous remercie parce que c'était vraiment bien fait. C'était un très très bel ouvrage, je l'ai adoré. Une page d'histoire de tout un chacun, on pourrait presque dire. Tout le monde peut avoir vécu une histoire un petit peu similaire. Est-ce que vos besoins d'écrire sont de plus en plus forts?
Disons que ils sont souvent très forts, très puissants, mais il m'arrive de pas pouvoir les satisfaire immédiatement parce que je suis pris par le tumulte de la vie, et j'ai parfois du mal à dégager du temps pour écrire. Aujourd'hui, c'est presque ça mon problème. Bon, trouver 2 ou 3 heures tous les jours pour arriver à écrire, c'est pas toujours facile ni évident. Bon, alors j'écris toujours le matin de bonne heure. Bon, ce matin, avant de partir, j'ai gratté une dizaine de lignes, mais bon. C'est toujours un arrache-cœur que d'avoir à quitter sa page pour pouvoir. Mais malheureusement, la vie, le quotidien fait que bon, je suis amené ailleurs.
Mm-mm.
Donc c'est vrai que c'est un peu difficile des fois de trouver, dégager du temps. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à écrire.
Oui. Ben, Georges Patrick-Glaise, on va se quitter. Vous allez continuer d'écrire On se retrouvera bien sûr
l'année prochaine.
Dans quelques mois, l'année prochaine, voilà, exactement. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin. Pour ma part, je vous remercie énormément de cette belle histoire. Et j'espère que l'histoire du Volvestre sera aussi jolie que celle de Martre Tolosane. Merci beaucoup, Georges.
Mais c'est moi qui vous remercie. Puis, je donne rendez-vous à mes lecteurs, à tous les salons régionaux auxquels je participe, où ils pourront me retrouver, notamment au salon de Pamiers, début juin.
Thank you.